Allez, on marche encore une petite heure.
Oui. Ouais, tout le monde, on est prêts.
Allez, où?
Peut-on éprouver le frisson de la découverte dans une ville que maintes et maintes touristes ont sillonné avant soi? Peut-on espérer avoir le plaisir d'une errance solitaire dans un endroit à la carte de toutes les agences de voyage de la planète? Peut-on tomber amoureux d'un lieu déjà connu et apprécié de tous? Il semblerait que oui. C'est ce qui est arrivé à nos deux invités. Chacun de leur côté sont tombés sous le charme de Venise, presque un envoûtement. Bien au-delà de la carte postale et du décor pour lune de miel, cette ville est devenue pour eux une obsession. Julie Bourges est photographe. Elle a découvert la ville dans la brume, en plein hiver. Depuis, elle n'a de cesse d'y retourner. Ses photos témoignent du regard très personnel qu'elle porte sur ce lieu, loin des clichés traditionnels. On peut découvrir quelques-unes de ses photographies dans le magazine AR, spécial Italie, dont nous sommes partenaires. Thomas Jonglaise, lui aussi, s'est pris de passion pour Venise. Il y a vécu 7 ans, a sillonné la ville en tous sens. On a découvert bien des secrets que même les Vénitiens ne doivent pas connaître. Il en livre une bonne partie dans un très beau guide, Venise insolite et secrète, aux éditions Jonglaise. Tous deux vont nous emmener à la découverte d'une Venise un peu différente de celle que l'on imagine ou que l'on croit connaître parce qu'on y a séjourné quelques jours. Et puis en fin d'émission, notre séquence « L'aventure en direct » nous emmènera au Kirghizistan, sur les traces de la panthère des neiges.
Première leçon de rame en compagnie de Roberto. Alors, on met son pied sur l'avant.
Un pied quoi?
Voilà, un pied arrière, ici, légèrement décalé. Déjà, on a du mal à tenir debout.
Les mains, ouais. Ici.
90 degrés.
Adesso, gira il polso, ouais. Et via. Brava. Torna su, gira il polso, et brava, così.
Bon. Allez.
Vai.
Vai.
Voilà. Immergi e spingi. Immergi e spingi.
Voilà.
Immergi e spingi. Ok. En avant. Voilà. Così. Così va bene. Dai. Ok.
Anne Pastor, prenant un cours de gondole en 2013 sur France Inter. Nous voilà donc partis dans les étroits canaux vénitiens en gondole. Alors, on a dit qu'on allait fuir les clichés, mais on avait quand même envie de garder les éléments emblématiques du lieu. Thierry Jonglaise, les gondoles, elles font vraiment partie du paysage à Venise où on cède déjà un peu à la facilité?
Pour être clair, les Vénitiens n'ont pas de gondole. Hein. Ça, c'est clair.
Ça répond à ma question.
Les Vénitiens n'ont pas de gondole, c'est vraiment que pour les touristes aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas à l'époque. On voit encore des vieilles photos du début du siècle où on voit les gens, les Vénitiens, qui effectivement se déplaçaient en gondole. Aujourd'hui, c'est totalement fini. C'est vraiment un outil réservé 100% pour les touristes.
Julie Bourges, vous, ce n'est pas en gondole, mais en vaporetto que vous êtes arrivée à Venise pour la première fois. C'était aussi en 2013. Au départ, Venise, ça vous attirait pas plus que ça. Hein. Pourquoi vous y êtes rendue finalement?
En fait, je venais de faire 2 voyages en Italie, à Rome et à Florence, où j'étais partie aussi faire des photographies, découvrir la ville et marcher. Et puis, je me posais la question de la prochaine ville et je pensais plutôt aller à Naples. Et j'ai vu un film, en fait, qui a été tourné à Venise, qui s'appelle « 10 hivers à Venise » de Valerio Mieli, qui est un petit film, qui est en fait une histoire d'amour tournée sur 10 ans et filmée exclusivement en hiver. Et en voyant le film, je me suis dit, y a peut-être quand même quelque chose à voir au-delà du cliché, moi, que j'en avais. Pour moi, c'était vraiment Disneyland. S'il y a quelques années, on m'avait dit que je tomberais amoureuse de cette ville et que j'y serais allée 12 fois en 3 ans, je vous aurais pas cru, vraiment pas cru. Et c'était vraiment...
Et c'est en vaporetto, donc, que vous y êtes rendu. Le son que l'on entend derrière cette espèce de bruit d'aspirateur, c'est le son du vaporetto que vous avez enregistré vous-même, d'ailleurs.
Oui. Alors, c'est pas en arrivant que j'ai fait cet enregistrement, c'est quand j'y suis retournée après. Mais oui, effectivement. Je suis arrivée en vaporetto, je suis arrivée à l'aéroport déjà en avion, j'ai mis le pied sur le vaporetto, c'est un trajet que je vous conseille de faire quand vous arrivez à Venise, plutôt que d'y aller en bus, prenez le vaporetto. Et c'était en plein hiver, moi aussi, c'était au mois de janvier, il faisait froid et il faisait nuit, et donc j'ai pris une photo comme ça quand je suis arrivée à Venise. Alors on voit le sillage du bateau
Là où vous avez pris votre première photo de Venise. Décrivez-la. Alors vous nous avez fait la gentillesse de nous en offrir quelques-unes, 4 de vos photos qu'on va mettre sur la page Facebook pour que les auditeurs qui le souhaitent puissent les voir. Je rappelle qu'elle est accessible même si on n'a pas de compte Facebook. On tape dans son moteur de recherche Le Temps d'un Bivouac Facebook et on tombe sur notre page. Ça, c'est cette première photo très énigmatique et le ton est donné. On ne reconnaît pas Venise sur votre première photo.
Non, sauf si vraiment vous connaissez très bien Venise, mais ça pourrait effectivement être ailleurs. On voit le sillage d'un bateau et on voit sur les côtés ces bricoles qui sont les bouts de bois qui sont plantés dans la lagune pour délimiter les voies navigables. Et en plus, ce qu'on voit en fait, on voit l'arrière du bateau, donc on voit plutôt l'aéroport et le continent. Mais le fait que la photo soit floue la rend assez abstraite et voilà, je pense que cette image, elle illustre bien pour moi l'impression que j'ai eue quand je suis arrivée à Venise d'être complètement survoltée. J'étais amoureuse de Venise même avant d'être vraiment arrivée dans la ville, quoi. C'était une espèce de sensation très particulière.
Oui, alors c'était l'hiver, vous étiez seule. On est loin donc de ce cliché lune de miel, ciel bleu de Venise.
Oui, mais je pense qu'il y a un malentendu là-dessus. C'est-à-dire que c'est une ville dont on tombe amoureux et je pense qu'effectivement les gens ils vont souvent en couple. Bon, aujourd'hui les gens ils vont souvent en groupe plus qu'en couple. Mais quand on y va en couple et qu'on est avec quelqu'un, c'est vrai que je pense que l'amour que provoque cette ville, on le projette aussi sur son compagnon, son amoureuse. Et alors qu'en fait c'est la ville qui provoque vraiment. Moi je l'ai ressenti et j'étais seule, une sensation très très particulière et un émerveillement voilà, de tous les instants.
Thomas Jonglès, dans quelles circonstances vous avez rencontré, j'ai envie d'employer ce terme, de rencontrer la ville de Venise?
Ce que je disais tout à l'heure, c'était pareil en janvier, un mauvais jour de janvier, où j'ai décidé de venir y habiter. En fait, moi j'habitais Paris tout simplement, et je me suis dit avec ma femme, bon, on a fait le tour de Paris, on avait l'impression de tourner un peu en rond, où est-ce qu'on part habiter? Et on s'est dit, l'Italie c'est sympathique. En Italie, on commençait à se dire, tiens, Rome, Naples, Venise, etc. On s'est dit, allez, on va pour le premier week-end de déminage, on va dire, on va à Venise. Et malgré la pluie, le froid, etc., on est sorti le dimanche soir en se disant, c'est évidemment là qu'on part habiter. Mmh. Et 9 mois plus tard, on débarquait en septembre avec les enfants, sans parler un mot d'italien, qu'on a mis à l'école italienne. Et voilà, c'est parti.
Vous y avez vécu 7 ans.
7 ans.
Alors, c'est un coup de foudre, c'est vraiment un coup de foudre.
Alors, le coup de foudre, je dois avouer, a été hyper rapide. Et en fait, très rapidement, moi j'avais compris une chose, à laquelle je crois toujours, c'est que Venise, le centre historique de Venise est évidemment magique, mais la lagune de Venise autour du centre historique est également exceptionnelle. Et ça, les gens, parfois l'oublient.
Alors, il faut peut-être à ce stade de la discussion, pour les gens qui, comme moi, ne sont jamais allés à Venise, en ont une image à travers des documentaires ou des récits, expliquez-nous ce que c'est que la lagune, ce que c'est que Venise. Parce qu'on a ces canaux, hein, on a quelques images en tête, mais on n'a pas forcément la ville telle qu'elle est organisée.
Alors, la ville de Venise est à peu près au milieu de la lagune de Venise. La lagune de Venise, c'est donc, comme son nom l'indique, une sorte de lagune, un grand lac, avec plusieurs centaines d'îles. Qui est séparé de la mer Adriatique, donc de l'océan, enfin de la mer Méditerranée, par le Lido. Donc c'est une île, où ce sont plusieurs îles en fait, très fines, un petit peu verticales. Mmh. Il y en a 3. Et cette séparation entre la lagune de Venise et la mer, et l'océan, se fait par 3 passes. Voilà. Donc les bateaux communiquent par 3 endroits différents entre la lagune et la mer. Mmh. Et donc, parmi ces centaines d'îles qui constituent la lagune de Venise, Venise a été construite sur un lieu où les îles étaient le plus concentrées. Et au-delà de ça, il y a même, je crois, 30% de la ville, à peu près, qui a été construite sur des pilotis. C'est-à-dire qu'on a complété les îles, ou certains angles d'îles, pour gagner un peu sur la mer, un peu comme on a fait aux Pays-Bas, sauf que ce n'était pas des polders. On a complété le bout de l'île par, allez, c'est pas 10, 50, 100 pilotis, c'est 10 000, 20 000, 100 000. 2 millions de pilotis.
Ouais, c'est un réseau d'îles et il y a ces pilotis qui vous font dire, Julie Bourges, que vous avez une impression de forêt à l'envers.
Ben en fait, j'ai pas appris tout de suite cette histoire, mais quand j'ai appris que Venise était construite en grande partie, alors moi je pensais que c'était en grande partie, sur des troncs d'arbres enfoncés dans le sol, je trouve ça assez fascinant. Et effectivement, l'image de Venise construite sur une forêt à l'envers, c'est assez beau et ça rajoute un peu de la végétation à Venise qui manque un petit peu de végétation. À part les jardins privés, c'est vrai que c'est pas toujours, il n'y a pas beaucoup de
verre. C'est vrai que Venise est très dense dans le centre-ville, c'est pour ça que s'échapper dans la lagune et dans les îles de la lagune, c'est quelque chose de fantastique. Ouais. Parce que là, on fait une humeur de bateau et on est à la campagne, vraiment, c'est vraiment la campagne, mais au milieu de la lagune. Donc c'est assez magique.
Alors vous, votre créneau, credo, Thomas Jonglès, c'est vraiment d'essayer de découvrir les villes, et là en l'occurrence Venise, hors des sentiers battus. Hein. Ce que les autres guides ne racontent pas, ce que même les habitants parfois ne connaissent pas eux-mêmes. Et là, évidemment, en y ayant vécu 7 ans, vous avez eu le temps de la découvrir pierre après pierre, cette ville.
Exactement. Alors, en gros, l'idée, c'est sur les 7 ans, les 2 premières années, c'était pour connaître Venise de façon superficielle. Et après, les 5 années suivantes, c'était pour rentrer dans le détail. Ce qui veut dire que j'ai acheté tous les livres qui ont été écrits sur Venise, ou quasiment tous. Donc j'ai une bibliothèque sur Venise assez importante.
Ouais.
Et ce que je me disais, tout ce que je lis dans ces guides et livres ne figurera pas dans le guide. Donc c'est quand même un challenge, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été écrites. Il fallait que je parle de choses qui n'avaient jamais été écrites. Plus, au-delà de lire les livres, se promener. Alors, pour ceux qui aiment se promener à pied, Venise est le paradis. Mmh. Parce qu'il y a une telle densité architecturale, une densité culturelle, historique dans la ville, que tous les 20 mètres, et j'exagère à peine, tous les 50 mètres, il y a quelque chose à voir d'assez spectaculaire. Ça peut être un détail sur une façade, on peut rentrer dans une cour intérieure, on peut rentrer dans une église, etc. Mmh. etc. Donc, beaucoup se promener, effectivement. Et il y a beaucoup de découvertes que j'ai faites qui se sont faites par hasard. Et également rencontrer beaucoup de gens et leur demander un petit peu leur coin.
Un exemple, une découverte que vous avez faite, qui était là aux yeux de tous, mais que personne ne voyait plus.
Alors, une découverte, ça, c'est que j'adore raconter, que je recommande à tous mes amis et même dont on parle dans le guide. C'est, je leur dis, sais-tu qu'on peut visiter la basilique Saint-Marc, qui est quand même inondée de millions de touristes tous les ans, sans personne. Et de façon tout à fait officielle. Alors, comment tu fais? Alors en fait, ça, je l'ai découvert par hasard. Un soir, je me promenais après la fermeture de la basilique, qui selon la saison, c'est 5h ou 6h, sur le flanc gauche de la basilique, je voyais une porte qui avait été réouverte une demi-heure à peu près après la fermeture. Et je voyais une sorte de garde qui était là. Je m'approche, je le regarde, je me dis tiens, c'est bizarre. Et là, je me lance et sans rien demander, je passe devant lui et je rentre. Et il ne m'arrête pas. Et en fait, je comprends a posteriori que le garde est là pour éviter que les touristes rentrent. C'est en fait, une demi-heure après la fermeture de la basilique, le moment où les vêpres vont commencer, parce que c'est une église qui est très vivante. Donc il va y avoir les vêpres qui vont durer entre 30 et 45 minutes, et ensuite la messe du soir. Autant vous dire que les vêpres et la messe du soir, il n'y a pas les foules. Non seulement il n'y a pas de touristes, parce que les touristes ne le savent pas. Si vous arrivez avec l'appareil photo en baudoulière, vous êtes refoulé. Mais si vous arrivez tout tranquille, tout humble, même si vous ne parlez pas italien, il n'y a même pas besoin de parler italien. Genre, vous mettez les deux mains, vous collez les deux mains, genre, je veux juste me recueillir dans l'église. Ils vous laissent rentrer. Et là, vous rentrez dans la basilique, la nuit, éclairée par toutes les bougies, les lumières, tamisées, etc. En moyenne, j'y suis retourné une bonne dizaine de fois à ces vêpres et à cette messe de la soirée. Il y avait entre 3 et 5 Vénitiens dans toute la basilique. Plus évidemment le prêtre, etc. Donc on était entre 5 et 10 à tout casser dans toute la basilique.
Savoir voir les lieux comme personne ou aucun touriste, en tout cas, ne les voit. C'est un peu comme s'il y avait une énigme aussi quand vous vous promenez dans ces rues, comme s'il y avait une énigme à résoudre. D'autres habitants de Venise, et pas des moindres, ont eu ce sentiment avant vous. Un certain Hugo Pratt, l'auteur des Corto Maltese, a vécu à Venise. Suivons-le lors d'une de ses déambulations dans la ville avec un journaliste.
Venise.
Oui. C'est joli ça.
Hein ? C'est un peu une ville un peu légendaire, non ? Pour vous ?
Au moins.
Avec des jardins secrets, des.
Non, c'est pas légendaire, c'est une vérité. C'est une véritable ville secrète. Parce que disons, il y a une certaine partie de la ville qui est cachée parce qu'il est bloqué, on ne peut pas entrer. J'espère qu'il va arranger et il aura la possibilité un jour d'entrer dans cette ville un peu mystérieuse. Mais...
Thomas Jonglès, elle se visite la maison d'Hugo Pratt à Venise ?
Alors, aujourd'hui non, elle est privée. Mais ce qui est intéressant, les passionnés d'Hugo Pratt le verront. Hugo Pratt était passionné par l'ésotérisme, et notamment l'alchimie. Il y a beaucoup d'éléments d'alchimie qu'on trouve dans la ville. Et effectivement, ce qu'on oublie, c'est que Venise, à la Renaissance, était la capitale alchimique de l'Europe. Mmh. Et donc, il y a eu tout un tas de vestiges alchimiques qu'on retrouve, et de vestiges ésotériques qu'on retrouve dans la ville.
Ouais.
C'est assez passionnant. Il y a notamment dans l'église San Francesco della Vigna, qui est au nord-est de la ville, qui est une église somptueuse, qui a été construite selon des principes kabbalistiques musicaux. Alors, on ne va pas rentrer forcément dans les détails, mais l'idée principale, c'est que les planètes, dans leur mouvement autour du Soleil, créent ou provoquent ou font une sorte de musique, de son. Et donc l'idée, c'est de retrouver ces sons planétaires, ou on va dire cosmiques, et de les utiliser dans ces rapports, dans les rapports de son entre eux, d'utiliser ces rapports dans l'architecture pour construire une église, dans le cas de San Francisco de la Vigna, selon les principes cosmiques. Et donc j'ai retrouvé les plans dans des vieux documents de San Francisco de la Vigna qui expliquent comment effectivement l'architecture de l'église correspond à ça.
Et toute une histoire dans cette ville, une histoire qui affleure à chaque coin de rue et de canal. Nous partons pour une visite de Venise au-delà des clichés et du décor de lune de miel à la découverte de cette ville et de son histoire.
La vigie du Cap Kermatiki aurait aperçu à l'aube un navire cinglant vers Venise. Il voguait vent en poupe et toute voile dehors.
Ne me fais pas rire. La vigie du Cap Kermatiki n'est qu'un vieil ivrogne.
Et si pourtant c'était vrai, si le San Marco allait accoster demain le long de la lagune, avec ses cales pleines de tous les parfums de l'Arabie, de tous les tapis de la Perse, de toutes les soies de la Chine.
Smoke of dreams, they pull you in to the crazy city's dim light. And the silhouettes that fall from grace, and they are laughing in love. Smoking ghosts find pleasure in your funny presence, sweetheart. They risk capture to be crushed, aroused in tune to cheap machines. Flashing time down the street, holding hands on the subway, and the smoking spirits, they will take you in, they wait for you in their shadow. New York City is everything, sing the ghost dance healer.
C'était Smoke of Dream, Thurston Moore sur France Inter.
Nous sommes dans un petit canal.
On a pris un petit canal, on est en train de le traverser pour rejoindre la lagune sud qui s'étend au-delà de l'île de la Giudecca.
Merveilleux, hein? Quel calme, quelle tranquillité.
Così, questo senti. Questo è quello che senti di notte.
Tout Vénitien qui se respecte est un homme de la lagune, est un homme de l'eau.
Mi sembra di tornare nel 500-600.
Je sens comme si j'étais au 15e, 16e siècle.
È come a Venezia nelle giornate di nebbia.
Et j'ai fait une comparaison même avec les jours où il y a du brouillard, épais, et tu marches, tu es tout seul, tu marches dans les calles, dans les rues vénitiennes, et tu t'attends au bout d'un moment de rencontrer quelqu'un en costume vénitien, parce que la ville, dans son architecture, dans son aspect, elle est restée presque la même, et donc on s'attend à des apparitions un peu d'autrefois.
Thomas Jonglaise et Julie Bourg, vous l'avez ressenti, vous, à Venise, ce côté voyage dans le temps, cette impression que, à tout instant, le passé peut ressurgir de façon un peu fantomatique.
Très clairement, et surtout l'hiver. Ce qu'on disait, visiblement, on a eu la même passion de la période d'hiver. On évoquait tout à l'heure ensemble la Cadario, qui est un palais maudit. Qui est sur le Grand Canal, pas très loin de la place Saint-Marc d'ailleurs, où en fait plusieurs personnes sont mortes de façon accidentelle et de façon assez spectaculaire, et à tel point que un cinéaste, Woody Allen, tout à fait, était tombé amoureux de ce palais. C'est vrai que c'est un palais sublime de la Renaissance sur le Grand Canal. Il tombe amoureux, il se renseigne, il veut l'acheter, etc. Et puis au dernier moment, juste avant de signer, on lui dit: mais est-ce qu'on t'a raconté que ce palais est maudit et que tous les propriétaires qui l'achètent meurent dans les semaines ou les mois qui viennent de mort violente? Et il a fait marche arrière, il a refusé d'acheter le palais.
Ouais. Cette impression de ville fantomatique, elle est renforcée par ce brouillard que vous aimez tant, hein, Julie Bourges, et que l'on voit sur ces photos que vous prenez de la ville.
Oui, moi j'adore le brouillard. C'est vrai, quand Thomas parle de mauvaise journée de janvier, moi j'aurais plutôt tendance à parler de belle journée de janvier.
Alors ça dépend, parce qu'il n'y a pas toujours le brouillard. Une mauvaise journée de janvier, c'est quand il pleut. Hein,
c'est vrai, sans brouillard. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que je pense qu'c'est vraiment le moment où la ville est la plus belle et la plus énigmatique et la plus suggestive. Et bon, moi j'ai été complètement envoûtée par cette ville et surtout effectivement par la lagune quand il y a du brouillard. Et depuis ce voyage de janvier 2013, je chasse le brouillard. En fait, j'ai des indiques qui m'appellent quand il va y avoir du brouillard ou quand ils pensent qu'il va y avoir du brouillard, et je suis capable de prendre un avion parce que j'ai vu la météo et qu'il y a du brouillard de prévu. Et cette impression d'être, alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'imagine si vous avez vécu là-bas, mais d'être sur un vaporetto dans le brouillard sur la lagune, on est complètement perdu, on n'a plus de repères, les sons sont différents, souvent les vaporettos sont très silencieux, les gens ne parlent pas beaucoup, et ça appelle le respect, quoi. Il y a vraiment une ambiance très très particulière. Mmh. Et
devant vous avez une photo, justement, un baigné de brouillard, c'est où? Alors décrivez-la et dites-nous ce que c'est.
Alors donc c'est une photo de la lagune avec une petite île qui sort de la lagune, enfin un bout de terre avec une ruine, un bâtiment en ruine avec de la végétation qui reprend ses droits. Ce sont les îles de la Madonna del Monte, qui sont en fait, quand vous prenez le Vaporetto à Fondamenta Nuove, que vous allez vers Burano, donc qui est dans le nord de la lagune, vous croisez ces deux petites îles qui sont abandonnées depuis longtemps. En fait, à la base, c'était, je crois, un monastère bénédictin qui a été abandonné, réinvesti. Et donc, sur cette image, on voit qu'une partie des îles. Mais c'est une photographie qui m'a donné envie de travailler sur la lagune dans le brouillard. J'ai toute une série que j'ai appelée Haïku, où je montre Venise, la lagune de Venise dans le brouillard, avec des éléments assez lointains qui rappellent un peu la calligraphie japonaise. Et voilà, c'est une espèce de variation sur un même thème et qui parle beaucoup de l'évanescence du monde. Et je trouve qu'il n'y a pas d'autre endroit, de meilleur endroit en tout cas, que Venise pour évoquer ça. Et c'est vrai que quand on croise ces îles, on pourrait vraiment s'attendre à voir des fantômes débarquer ou à être transportés à une autre époque. C'est très évocateur.
Une ville qui a une longue histoire, faite à la fois de faste et de tragédie aussi.
Citoyens de Venise, regardez autour de vous. Voyez la maladie, la mort qui règne désormais sur notre cité, si belle autrefois. Et dites-moi si la peste n'est pas un châtiment divin. Nous sommes entourés de catins, de courtisanes. Nous devons chasser ces créatures qui nous tentent, car notre cité est devenue la cité de la honte et de la fornication, où la chair se livre à des pratiques inflammables. Nous prenons le chemin de Sodome et Gomorre et serons réduits en poussière jusqu'à la fin des temps.
Extrait de Venise, la courtisane, film de 1998. La peste a dévasté la ville au XVIIe siècle, je crois, Thomas Jonglaise. Ça a laissé des traces?
Alors, il y a plusieurs traces. C'est déjà la construction de l'église de la Salute, qui a été un remerciement de la population de Venise pour avoir été libérée de la peste. Il reste aussi ce qu'on appelle le Lazaret Neuf, Lazaretto Nuovo, qui est au nord de la lagune, en direction de Burano, un petit peu plus à l'est. Un lieu qui se visite le week-end en saison, d'avril à octobre, où on voit l'endroit où les gens étaient mis en quarantaine. Et on a notamment, dans l'exposition, alors c'est une exposition qui est très recommandée, parce qu'en plus, il n'y a jamais personne. Là, vous ne croiserez pas un touriste. Mais on peut y aller en vaporetto, il n'y a pas besoin de taxi ni rien. On voit le fameux masque des docteurs de la peste, qui est effectivement avec une protubérance très longue, pour deux raisons. Et dans cette protubérance, ils mettaient en fait un mélange d'herbes. Et donc l'objectif était double, c'était un, de s'éloigner le maximum du pestiféré, parce que ça sentait très mauvais, d'où le nom de pestilentiel. L'odeur pestilentielle, ça vient de là, ça vient du fait que la peste sentait vraiment un pestiféré très très mauvais. Et deux, soi-disant, le mélange d'herbes était censé aussi éloigner la maladie.
Ouais. C'est-à-dire que ce masque très caractéristique de Venise, avec ce long nez pointu un peu crochu, en fait, qu'on voit parfois lors des carnavals, hein, c'est devenu un masque de fête. Au départ, c'est le masque de la maladie, en tout cas des médecins
médecins de la peste, tout à fait.
Elle est là, l'explication de ce masque avec ce long nez.
Et le seul endroit où on voit ce masque de la peste, des docteurs de la peste, et sur l'île du Lazaret Neuf. Et donc, c'est vraiment une visite à recommander.
Oui. Alors, le carnaval de Venise aussi, il vous a inspiré, parce qu'on parlait du brouillard, hein, de cette ville un peu fantomatique, mais vous ne passez pas aussi à côté des visions plus colorées, plus festives de Venise, Julie Bourges. La couverture du magazine AR, dans lequel on peut découvrir quelques-unes de vos photos de Venise, c'est vous qui l'avez prise avec cette personne déguisée de la tête aux pieds lors du fameux carnaval de Venise.
Oui, c'est ça. Bon, c'est un déguisement pas tout à fait habituel, c'est pas vraiment le déguisement classique vénitien, mais voilà, on a l'impression qu'il va sur une autre planète, donc j'aimais bien. J'ai pas fait énormément de photos pendant le carnaval, mais voilà, j'aimais bien ce personnage complètement sorti d'ailleurs, et c'est vrai que voilà, à Venise on change d'univers, bon, pendant le carnaval peut-être un peu plus. Et voilà, il y a autre chose. Alors c'est vrai qu'on connaît le carnaval pour les déguisements, mais je vous conseille surtout d'y aller pour quelque chose qu'on connaît pas assez bien, mais qui sont les fritelles, qui sont des petits beignets frits et qui sont absolument délicieux. Voilà.
Je confirme, ils sont excellents.
Ouais, voilà, il y en a plusieurs sortes. Voilà, ça vaut la peine.
Ils se vendent que pendant le carnaval, que pendant le mois de février. C'est assez étonnant.
Et alors des jeux, des distractions, ça occupe la vie de Venise depuis très longtemps. Dans votre guide, on voit qu'il y a ces petits casinos. Alors quand c'est au pluriel, il faudrait dire casini pour être un puriste. Ces petits casini qui, dans l'histoire, étaient très nombreux à Venise, où on venait jouer et où des fortunes se sont défaites dans ces petits salons où l'on jouait.
Tout à fait. Il en reste aujourd'hui quelques-uns qu'on peut visiter.
Ouais.
Notamment un qui est le siège de l'Alliance Française, qui est un petit casino charmantissime. Et en fait, auquel on peut accéder, parce que tout simplement, en semaine, les portes sont ouvertes, on sonne, ils nous ouvrent, etc. Et ce qui est très amusant dans ce casino, c'est qu'il est au premier étage, et dans le sol du bâtiment, dans le sol du salon principal, il y a un pavé qu'on peut enlever et qui servait de judas. Donc en fait, d'œil, on regardait, quand quelqu'un sonnait, on enlevait le pavé, on regardait par le trou et on voyait qui était en dessous et qui essayait d'entrer. Parce qu'il n'y avait pas que du jeu. Il y avait aussi des infidélités, des coucheries, etc., etc., évidemment. Donc quand la femme arrivait alors que le mari n'était pas censé être là, en galant de compagnie, il regardait qui était là et il partait par des portes dérobées. Et donc il y avait plusieurs sorties parfois.
Alors on a vu, là on voit un peu Venise par des aspects qu'on ne connaît pas. Tout à l'heure vous nous avez quand même dit comment rentrer dans la basilique Saint-Marc, que tout le monde connaît là pour le coup, mais vous nous avez dit comment la visiter de façon un peu plus tranquille, sans le flot des touristes. Alors c'est vous qui allez choisir, tiens, prenons quand même un autre endroit, comme vous voulez, soit le pont du Rialto, soit le palais des Doges, deux endroits emblématiques quand on va à Venise. Ce sont des passages obligés, mais on ne va pas non plus s'interdire d'aller là où tout le monde va. Lequel des deux vous avez envie de nous décrire?
Alors, parlons du Palais des Doges, parce qu'il est, d'une richesse extraordinaire. Notamment, sur la façade qui donne sur la place Saint-Marc, pour ceux qui regardent bien, il y a deux colonnes au premier étage de la loggia qui sont d'une couleur différente, qui sont un peu roses. Alors déjà, il faut le remarquer, parce qu'il faut bien regarder. Et ensuite, une fois qu'on a vu ça, on se dit, mais pourquoi il y a deux colonnes roses? Et alors, il faut savoir qu'à Venise, quand il y a quelque chose qui est un petit peu différent du reste,
il y a une raison.
C'est rarement par hasard.
Ouais.
Et là, c'est effectivement pas du tout par hasard.
C'est une ville à énigmes, en fait.
C'est vraiment une ville à énigmes. C'est passionnant. Le fait d'avoir écrit ce guide était un bonheur absolu.
Pourquoi les colonnes sont roses?
Les colonnes sont roses parce que c'est l'endroit précis entre ces deux colonnes que le doge se positionnait pour annoncer les peines de mort pour les criminels, etc. Et il se mettait là et le rose rappelait la couleur du sang et de la mort des victimes.
Julie Bourges, est-ce que vous vous êtes interdit de photographier ces monuments tant vus, tant photographiés par tout le monde et par tous, sous toutes les coutures? Est-ce que vous les avez quand même pris dans votre appareil?
Ouais, j'ai pas pu l'éviter, j'ai pas eu envie de l'éviter. Je pense qu'il faut se l'autoriser et voilà, c'est toujours agréable de faire de belles images, de beaux endroits. Et puis quand je les ai faites, je peux passer à autre chose et je peux travailler sur des choses peut-être plus personnelles ou plus intimes.
Mmh. Il y a une très jolie photo que vous avez prise dans le quartier du Rialto justement, ce fameux pont le plus célèbre de Venise. Alors vous, c'est pas le pont que vous avez pris en photo, mais on est dans ce quartier-là.
Ouais.
Elle est superbe cette photo, décrivez-la.
Alors en fait, c'est une photo du quartier du Rialto, enfin du marché du Rialto de nuit, parce que je fais beaucoup de photos de nuit et les étals donc sont fermés. On voit un bâtiment sur la gauche et ce qu'on voit surtout c'est de l'eau sur le sol, en fait une espèce de grande flaque d'eau, et en fait c'est l'Acqua Alta, donc je pense que vous connaissez ce phénomène.
Bah, vous allez nous le rappeler ce que c'est que l'Acqua Alta.
En fait
alors.
C'est selon les marées, selon le vent, si le sirocco souffle ou pas, selon s'il y a eu des intempéries aussi, les marées sont plus ou moins fortes et quand les marées sont très fortes, parfois l'eau inonde une partie de la ville.
Mmh. C'est-à-dire que l'eau remonte, on a l'impression que c'est inondé, mais en fait elle remonte
par les
pierres en fait, qui sont poreuses, et l'eau remonte par le sol tout simplement.
Oui, elle remonte par le sol et c'est assez drôle à voir parce que vous voyez au début, quand vous voyez des flaques d'eau à Venise, vous pensez pas forcément que c'est l'Acqua Alta, vous pensez qu'il a plu, qu'il y a une flaque d'eau, mais en fait cette flaque d'eau souvent s'agrandit jusqu'à devenir faire presque des rivières dans les rues. Mmh. Et c'est vrai que l'eau ne fait pas que déborder des canaux, on voit vraiment l'eau qui sort du sol et c'est assez surprenant. Et sur cette image, on voit vraiment, voilà, l'Acqua Alta est en train de monter et donc on ne sait plus trop où est la limite en fait entre le bâtiment et la rue, et c'est assez vertigineux et ça renforce cette ambiance très énigmatique de Venise.
Avec un jeu de reflets, et je rappelle que ces photos, on va les mettre en lien sur la page de l'émission sur franceinter.fr, sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Et puis évidemment, il y a d'autres photos à découvrir dans le numéro spécial Italie du magazine AR. Suite et fin de nos déambulations dans les ruelles et les canaux de Venise. Et dans un instant, nous prendrons le temps de faire plus ample connaissance avec les habitants de cette ville. Ont-ils le sentiment d'habiter un musée? Que pensent-ils des touristes? C'est ce que nous allons voir dans un instant.
Est-ce qu'elle est là, loin encore? Plutôt vers toi, ou plutôt vers le nord? Je regarde. De forme de ton corps.
Island Blues, c'était Anne Brown sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Ça, c'est un quartier complètement différent hein, de San Marco.
Bon, c'est la, un petit peu la vraie Venise. C'est le quartier plus habité, avec le Canareggio. Avec Castello, ils sont les deux quartiers vraiment vénitiens où il y a les gens qui vivent, qui habitent. Et par exemple, la dimanche, ici, c'est comme dans les petits villages, il y a les gens qui se rencontrent,
ah
qui
oui,
partent dans la place, et ils sont mis la veste meilleure, etc. Donc il y a encore le petit magasin, il y a les petites activités, il y a plusieurs artisans qui travaillent.
Voilà un Venise que l'on connaît moins, ce quartier de Canareggio. C'était sur France Culture, Les Nuits Magnétiques en 1996. Dans votre guide Venise insolite et secrète aux éditions Jonglaise, vous mettez, Thomas Jonglaise, aussi en avant ces quartiers plus excentrés, moins connus de Venise, qui présentent aussi un grand intérêt pour vous.
Moi, je crois que Canareggio, on doit avoir plus de 100 pages sur le quartier. Castello, qui est un autre quartier relativement peu touristique, pareil, une centaine de pages. En fait, tous les quartiers sont absolument passionnants. La Giudecca aussi, à ne pas oublier, parce que la Giudecca a un avantage, c'est que c'est face à Venise. Donc en fait, on voit, quand on se promène, il y a un trottoir qui fait quasiment toute la longueur de la Giudecca. Ouais. Donc se promener sur la Giudecca.
Mais alors décrivez-nous, hein, parce que là vous enfilez les noms, mais on n'y est pas du tout, nous on n'y est jamais allé, il faut que vous nous fassiez vivre ça.
La Giudecca, c'est ce quartier qui est une sorte de bande de terre assez fine, qui fait face à Venise en fait. C'est séparé par un bras de canal qui est assez large, c'est là que passent les fameux paquebots dont tout le monde se plaint aujourd'hui. Les paquebots passent entre la Giudecca et Venise, même si Giudecca fait officiellement partie de Venise. Donc ce bras de canal qui fait peut-être 100 mètres de large. Et là, on a une vue absolument exceptionnelle sur tout Venise. Donc on voit le Place Saint-Marc, tous les clochers d'église, toutes les maisons, tous les palais, etc. Et souvent, c'est éclairé au soleil. Donc une promenade au coucher de soleil sur la Giudecca est absolument somptueuse. Et on termine en prenant un petit coup de Vaporetto, deux secondes, sur l'île de San Giorgio, qui fait face à la Place Saint-Marc. Et là, il est très recommandé de monter en haut du campanile en fin de journée, juste avant la fermeture de l'église. Et au sommet du campanile, on a vue sur Venise côté nord, et vu sur la Lagune Sud, c'est un des plus beaux panoramas de Venise.
Gilles Bourges, quelle ambiance il règne dans ces quartiers que vous avez vous aussi traversé avec votre appareil photo?
Oui. Alors moi, je marche beaucoup à Venise. De toute façon, quand on se déplace, c'est beaucoup à pied ou en vaporetto. Mais c'est vrai que moi, je marche. J'aime beaucoup marcher. Et j'aime beaucoup marcher la nuit. Alors, que ce soit la nuit ou le jour, vous pouvez vraiment marcher sans croiser grand monde. Mais la nuit, c'est vraiment particulier parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à partir de 10h du soir, au mois de janvier, par exemple, vous pouvez marcher des heures sans croiser personne.
Il n'y a personne.
Et la première fois que je suis allée à Venise, je me rappelle avoir eu peur. C'est-à-dire que j'ai fait des photos dans beaucoup de villes dans le monde, de nuit, la plupart du temps. J'ai jamais eu peur. À Venise, j'ai eu peur. Et je suis rentrée, j'ai demandé à la personne qui m'hébergeait, mais est-ce que c'est tranquille? Parce qu'il y a c'est tellement énigmatique et c'est tellement particulier. C'est difficile de, peut-être, à la radio, il faudrait entendre les bruits de Venise, en fait. Quand on marche en Venise, on entend vraiment le bruit de ses pas, mélangé avec des bruits d'eau. Et c'est très évocateur et c'est très particulier. On est vraiment seul avec la ville et c'est absolument
fantastique. Vous êtes d'accord avec ce côté inquiétant, Thomas Jonglaise, de la ville?
Alors, c'est inquiétant si on ne sait pas que c'est en fait une des villes les plus sûres du monde.
C'est ça.
Parce que, pour une raison assez simple, c'est que comme l'accès, imaginons un type qui veut vous attaquer, où est-ce qu'il va après? C'est un dédale de rue, tout le monde se connaît, il y a des flics quand même un peu partout, et puis s'il veut sortir de Venise, il a quoi comme accès? Il a le pont qui mène à Venise, donc on peut le récupérer assez facilement, et sinon il part en bateau, et en hélicoptère ou en bateau rapide de la police, on le récupère assez facilement. Ce qui fait que tous les criminels, brigands, bandits, etc. savent que voler à Venise est très compliqué et en gros c'est devenu une des villes les plus sûres au monde.
Effectivement, j'ai pas eu de problème.
Alors les Vénitiens sont-ils inquiets, eux, pour l'avenir de leur ville? Comment se sentent-ils dans leur ville que le monde entier vient visiter comme un musée? Quelques réponses de Vénitiens.
Même pour les vacances, je ne quitte jamais Venise.
Moi, j'ai envie de voir le monde.
Elle va toujours sur la terre ferme.
C'est pas vrai. Juste le samedi et dimanche.
Elle ne sait pas apprécier Venise.
Je vais au cinéma sur la terre ferme et je fais du shopping.
Dans le futur, on sera de moins en moins. C'est très cher comparé aux autres villes. Acheter une maison à Venise, c'est pratiquement impossible aujourd'hui.
Les Vénitiens, nous sommes comme les Indiens d'Amérique, de moins en moins nombreux. Dans notre réserve, nous sommes attaqués. Et le risque, c'est que Venise devienne comme Pompéi ou le Machu Picchu. De jolies pierres, une cité magnifique, mais morte.
Moi, j'aime tellement ma ville que je suis prête à la racheter.
Et tu l'achètes comment ? C'est pas possible.
Je fais un prêt. Celui qui veut vraiment vivre à Venise, il fait tout pour...
Extrait d'un documentaire diffusé sur Thalassa, Thomas Jonglès. Quelles sont les menaces qui pèsent sur les vraiment sur Venise? On les entendait, ils se sentent limite, bientôt c'est le Machu Picchu, hein, on va, voilà, ça va finir en ruine, plus personne n'habitera ici. Est-ce que vous...
Alors, je dirais qu'il y a trois menaces principales. Il y a l'eau, parce qu'avec la montée des océans qui est prévue, il y a ce fameux Mosée qui est ce barrage qui est en construction quasiment fini pour protéger l'Acqua Alta, enfin la ville de l'Acqua Alta justement. Parce qu'en fait, l'Acqua Alta, ça paraît sympathique quand on est touriste. Quand on habite Venise, c'est un cauchemar.
Ouais. Cette eau qui remonte par les pierres.
Mais parce que non seulement elle remonte, mais en fait, parfois elle monte à un mètre de haut. Ouais. Ça veut dire que vous ne pouvez plus sortir de chez vous. La porte de votre palais ou de votre maison ne s'ouvre plus. Toutes les installations des cuisines ou des frigidaires, des commerçants qui sont au rez-de-chaussée, sont ruinées. C'est-à-dire que les moteurs sont sous l'eau, terminés, il faut racheter un frigidaire. Enfin, un frigidaire industriel, oui, commerciaux.
Quel lien, Julie Bourges, vous avez noué avec les Vénitiens, ceux qui habitent Venise?
Alors j'ai eu la chance, quand je suis arrivée, d'être logée par une Vénitienne pure et dure et qui m'a fait rencontrer beaucoup de Vénitiens, soit de naissance ou d'adoption, mais souvent des gens qui ont choisi d'habiter là et qui ne quitteraient Venise pour rien au monde. Et c'est vrai qu'on voit tout ce qu'ils sont capables de faire pour continuer à vivre à Venise malgré les problèmes de logement, parce que c'est très cher d'habiter à Venise, malgré les problèmes de déplacement. Mais c'est en même temps fascinant de voir comment cette ville vit. Tout est compliqué à Venise. Déménager, imaginez, il vous faut un bateau, faire vos courses, c'est compliqué. Voilà. Mais c'est là les gens qui habitent à Venise sont des vrais passionnés.
Ça a été difficile de partir après 7 ans, Thomas Jonglès, de cette ville que vous aviez adoptée?
On avait fait le choix de partir, donc c'était pas difficile. Parce que malgré la richesse culturelle, parce que, juste en quelques mots, c'est quand même une ville assez extraordinaire pour aussi d'autres choses, c'est que ça a la taille d'une petite ville et donc les avantages de la petite ville. Mais les avantages de la grande ville, parce que c'est un rayonnement culturel et une vie culturelle d'une grande ville. Donc c'est à la fois les avantages de la petite ville sans les inconvénients. Donc c'est assez fascinant. Mais ça reste malgré tout relativement petit. Il y a 50 000 habitants, aujourd'hui 55 000. Il y en a de moins en moins. Et on avait envie de voir autre chose,
d'accord,
tout simplement.
Vous en aviez finalement fait le tour de cette ville qui vous aviez tant plu?
Je ne pense pas qu'on en fait jamais le tour, parce qu'on continue à découvrir des choses tout le temps. C'est comme à Paris, même au bout de 20 ans à Paris, on découvre encore des lieux.
Et vous arrivez encore d'y aller? D'y retourner?
Bien sûr.
Votre guide, Thomas Jonglès, s'intitule « Venise secrète et insolite » aux éditions Jonglaise. Et puis Julie Bourges, on peut retrouver vos photos de Venise dans le portfolio du magazine AR, spécial Italie, dont nous sommes partenaires. Et puis en plus des photos de Venise, vous y retrouverez un article sur le sud Tirol, région de l'Italie peu connue, où l'on parle aussi bien l'allemand que l'italien, avec ce fameux musée Reinhold Messner, qui a ouvert récemment. À lire l'entretien d'ailleurs de Messner, que le magazine AR a rencontré. Messner, c'est cet alpiniste qui le premier a conquis l'Everest sans oxygène et qui est aussi le premier à avoir gravi tous les sommets de 8000 mètres. Il a presque 80 ans aujourd'hui et il semble encore en pleine forme, nous dit le magazine AR. Merci à tous les deux. Dans un instant, on file au Kirghizistan pour tenter d'apercevoir la panthère des neiges.
Flèche en opale dans mon ovale, tout métal au visage pâle. Drôle de fleur, un indien dans mon cœur. Flèche en platine dans ma poitrine, pointe sanguine, épaule féline. Drôle de fleur, un indien dans mon corps. C'est lui. Le jour comme la nuit, je suis à...
L'Indien, c'était Juliette Armanet sur France Inter, le temps d'un bivouac dont la programmation musicale est signée Elsa Béranger. Allez, on file au Kirghizistan.
Allô.
Ah oui.
Sur France Inter.
Vous pouvez patienter un petit moment.
Oui, mais c'est satellite qui attend.
Oui, c'est satellite, bien sûr.
L'aventure en direct.
L'appel téléphonique le plus extraordinaire que j'ai jamais fait, dit-il.
Au Kirghizistan, nous attend Thomas Egli, président d'Objectif Science International. Bonjour Thomas Egli.
Bonjour.
Alors, où vous trouvez-vous exactement?
Alors, je me trouve en ce moment à Bishkek, capitale du Kirghizistan, avec les enfants à côté de moi.
Alors, ah bah oui, on les entend, voilà. Ces enfants. Vous êtes parti avec un groupe donc de 7 enfants, de 10 à 16 ans, avec pour mission de débusquer la panthère des neiges. Dans quelle région se cache-t-elle exactement? Quel est le décor dans lequel vous avez cherché cette panthère?
Alors, la panthère des neiges vit dans une douzaine de, enfin, dont 12 pays, hein, dont le Népal, la Chine, la Mongolie, l'Inde et le Kirghizistan, ainsi que le Pakistan, etc., dans des montagnes assez élevées, entre 3000 et 5000 mètres d'altitude. Et nous sommes partis dans ces montagnes. Là, on en revient à l'instant. On est revenu hier de la réserve d'État dans laquelle on a été admis pour mener les recherches sur cet animal mythique, effectivement.
Oui, vous en revenez, hein, c'est la dernière journée de votre expédition avec ce petit groupe de jeunes. Qu'est-ce que vous avez vu, traqué de cette panthère pendant votre périple?
Alors les jeunes, en fait, ont relevé les indices de présence de la panthère. Ils ont trouvé des crottes de cet animal, ils ont trouvé des empreintes de cet animal, donc des empreintes de pas. Ils ont relevé des pièges photos sur lesquels les photos de la panthère apparaissent, puisqu'elle passe devant ses appareils. Et ils ont été filmés tout du long par une équipe de vidéastes qui est en train de faire un film sur leur odyssée, qui s'appelle Frappazoc Productions. Et tous les jours ont évolué de 3000 à 3005, de 3005 à 4000 mètres d'altitude. On a longé les crêtes, on a récupéré les fessettes, comme on appelle ça, les crottes de panthère. On a vu aussi ses proies. Hein, on a rencontré beaucoup de troupeaux de d'ibex. Donc ça, c'est les bouquetins, d'argali, donc c'est les mouflons. Et puis tous les autres animaux de ces vallées qui s'appellent là-bas les monts célestes. Donc c'est le massif de l'Altaï, qui sont au sud du lac Issyk-Kul, qui est le plus grand lac d'altitude après le lac Titicaca.
Et à quelles conditions climatiques voilà. vous avez eu à faire face dans ces altitudes et dans cette région alors?
Vous pouvez répéter la question, ça passe très mal depuis le Kirghizistan.
Ah ben oui, c'est ça, l'aventure en direct c'est toujours un peu loin. Quelles conditions climatiques vous avez eu à affronter?
Les conditions climatiques.
Oui.
Oui, alors en fait bon, On a eu beaucoup de chance. Il a plu à peu près tous les jours, mais pas très longtemps, des petites pluies. Il y a une journée, on a eu deux jolies pluies d'une heure. Une, on venait d'arriver à cheval, puisqu'on se déplace à cheval en fait dans la réserve. On venait d'arriver sur un site où on allait faire du bivouac pour faire de l'affût ensuite le matin au lever. Et on a dû installer les tentes en urgence sous une pluie battante. Mais tout s'est très bien passé. Derrière, on a séché en faisant le tour des pièges photos qui étaient dans le coin et qu'il fallait relever. On a trouvé une très très belle photo sur le piège de loup qui était en train de passer devant l'appareil. Et puis beaucoup de photos de panthères également.
Mais alors, donc, dites-moi, à vous entendre,
le mal des montagnes un peu, mais pas trop.
À vous entendre, Thomas Aigli, vous avez pris des photos, vous avez vu des traces du passage de cette panthère. Mais l'avez-vous observé directement, cette panthère des neiges?
Alors on a déployé un nouveau système, c'est la première fois aussi qu'on fait ça, donc les enfants ont lancé des drones en l'air pour voir si ça pouvait être utile pour améliorer la recherche de cet animal. Dans certains cas, oui, dans d'autres cas, les jumelles se sont avérées plus efficaces quand même encore aujourd'hui que les drones. Et puis, de jour en jour, ils ont vu de plus en plus de photos de cet animal, y compris dans une vallée qui était alors, juste à côté de là où il dormait sous tente. Et par contre, à la fin, ils l'ont vu en vrai, puisque sur le retour au bord du lac qui s'écoule, on s'est arrêté voir une association locale qui a récupéré en fait des panthères qui ont été sauvés de braconniers, des panthères qui sont blessés, qui peuvent pas retourner dans la nature, et ils ont eu l'occasion de les rencontrer et d'avoir le temps.
C'est donc une panthère rescapée qu'ils ont eu l'occasion de voir de près. Merci à vous, Thomas Aigli, pour ce témoignage. Bonjour aux jeunes, aux enfants et aux ados qui vous accompagnent. Félicitations pour cette pour cette expédition. Et puis pour ceux qui voudraient en savoir plus sur cette aventure, on peut aller la découvrir sur votre site internet osi-pantera.org que l'on va mettre en lien sur la page de l'émission du Temps d'un Bivouac. Au revoir.
Au revoir.
Non, je dois te laisser, je t'enverrai une carte postale.
Demain à 16h, nous partirons à la rencontre des civilisations de la forêt amazonienne. Et à 17h, nous reviendrons sur la vie de Diane Fosset, qui a passé sa vie à étudier et protéger les gorilles en Afrique. À demain donc pour de nouvelles aventures.